René de Secati. Et avec l'historienne d'art Nathalie Kaufmann, nous parlerons des modèles, ces femmes souvent nues qui inspirèrent les peintres. À demain.
Une émission de Stéphanie Duncan, ce vendredi à partir de 9h. France Inter,
la voix est libre.
Allez hop, Daniel Mermel, à Bassigifi, c'est maintenant sur Inter.
Pauvre fou qui te lève en l'instant dérisoire pour te faire valet dans l'espoir d'une dîme et machine à produire en l'escorte du mal, t'en viens quérir la mort comme fruit de ton art. L'espèce humaine croît en détruisant sa part, il n'est point de sagesse au désir animal, et le profit se love en inepte maxime entre la chair et l'os de notre périssoire. C'était un poème emprunté au camarade Yo-Yo, en dédicace aux pathétiques collègues venant ici supplier qu'on les laisse continuer à vivre à genoux. La lutte continue, merci, bonne continuation à tous.
Salut Daniel et les AMG, c'est Ève de Lyon pour vous dire que la MJC du Vieux Lyon avec Ciné Travail et le collectif ITEM organise la nuit du cinéma militant ce samedi 1er juin avec un coup de projecteur sur Chris Marker et les films du groupe Medvedkin. À 18h45, une rencontre avec les réalisateurs sur le thème « Le cinéma militant d'hier et d'aujourd'hui est-il un sport de combat ?» Et de 20h à 4h du matin, la projection de 22 films dans 3 salles différentes. C'est une nuit qui laisse la place à l'ardeur, la force et la pertinence de réalisateurs engagés sur les thèmes du travail, de la résistance pour la terre, de la démocratie locale et sur l'immigration. Le programme détaillé est sur www.mjcduvieuxlyon. À bientôt.
1999, Kosovo, une guerre juste. Qu'est-ce qu'on appelle une guerre juste ? Ben, il semble que ce soit toujours à peu près le même scénario depuis 1944. C'est-à-dire qu'il faut, pour faire une bonne guerre juste, il faut qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait un méchant monstre, nazi si possible, il faut qu'il y ait des résistants et il faut qu'il y ait des sauveurs. Et au Kosovo, il y avait ces quatre ingrédients-là, ces quatre éléments-là, qui semblaient vraiment une mise en scène voulue par la com de l'OTAN. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Le saviez-vous, pour les médias, nous sommes tous des poissons rouges. Oui, il suffit au poisson rouge de faire un seul tour dans son aquarium et il oublie tout. Du jour au lendemain, nous oublions, nous aussi. C'est le principe de l'ardoise magique. On écrit, on dessine et hop, on efface tout et on recommence. Consensuel et sans suite, vous connaissez la chanson. Vous voulez une preuve ? Eh bien, voilà une, le Kosovo. Le Kosovo, oui, qui se souvient de 1999, la guerre juste, la guerre humanitaire, soutenue avec l'enthousiasme unanime des médias, pris dans la glu compassionnelle. Durant 78 jours, au printemps 1999, l'OTAN, l'Alliance, emmenée par les États-Unis, allait bombarder la Serbie. Ce n'est pas une guerre, ce sont des frappes menées au nom du droit, déclarait notre sémillant Premier ministre Lionel Jospin. Alors à l'époque, émettre un doute, soulever une critique, c'était risqué, ça faisait de vous immédiatement un rouge-brun, un allié de Milosevic et d'Hitler réunis, et bien peu s'aventurèrent à prendre l'autoroute médiatique à contresens. Et depuis ? Depuis 14 ans, qu'est devenu le Kosovo ? Eh bien, selon Pierre Péan, que nous recevons aujourd'hui, et qui vient de publier un bouquin qui va faire du bruit, au contraire, pas du tout, on va voir, Kosovo, une guerre juste pour un État mafieux, eh bien, pour Pierre Péan, le Kosovo est bel et bien devenu un État mafieux, avec à sa tête des dirigeants qui ont fait de ce pays le centre de tout le crime organisé des Balkans et même au-delà, à commencer par cette terrifiante affaire de trafic d'organes dans laquelle de hautes personnalités kosovares viennent d'être condamnées. De cette dérive mafieuse, la communauté internationale n'a pas pu ne pas être informée, mais, selon Péan, ni Washington ni Paris n'ont voulu désavouer leurs anciens protégés, c'est ce qu'il affirme. En 1999, avec Guy Vanctil, nous étions en reportage pour la Bassigifi autour du Kosovo, parce que personne ou presque personne ne pouvait alors y entrer. Et on va revenir sur cette époque, sur cette série de reportages qu'on va confronter avec les propos de Pierre Péan qui nous rend visite aujourd'hui. Kosovo, le bénéfice du doute. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je suis Daniela Journet. Ce message est pour Daniel Mermet. Votre rêve a été exaucé. Il y a bien un film sur Pepino Impastato qui a été réalisé en 2002 par Marco Tullio Giordana. Il s'appelle I cento passi, les 100 pas en français. Au revoir.
Ouais, salut à tous. Salut Daniel, j'espère que tout va bien. C'est pour te dire que le basilic il pousse, hein, malgré qu'il ne fait pas très chaud, malgré qu'il pleuve. On a fait la première cueillette hier, alors on a pensé à toi. Et puis pour vous indiquer que vendredi soir, il y aura le repère aux latitudes, et puis on parlera de la paix en règle générale, la paix intérieure, il y a la paix avec les autres, la paix au niveau international. Enfin, on parlera de la paix. Et puis on fera aussi le calendrier, parce que cet été, malgré qu'on bosse dans les champs, on aura la chance de participer à l'organisation d'un concert de soutien à Notre-Dame-des-Landes le 15 juin à Barjol. Le 23 juin, il y aura le repas du Nouveau Journal. Le week-end du 20 juillet, il y a les jeunes artistes du canton qui font un festival sur 3 jours à Seyans, on leur filera un coup de main. Et puis à partir du 20, il y a la grande tournée de François Ruffin dans le sud-est, puisque le 20, il sera sur le canton de Fayence, le 21, il sera à Nice, le 22, il sera au Bagne, le 23 à Aix, le 24 à Marseille et le 25 à Nîmes. Ciao, viva, portez-vous bien.
Les Grettes, la gorge bleue, sont revenues sur le marais de l'année dans le golfe du Morbihan 56. L'équilibre écologique est au mieux. Lui, le paludier, qui a su par son travail faire revivre ce marais salant avec poésie et pédagogie, tel un modèle de stratégie écologique, doit s'en aller. Ainsi en ont décidé les élus du Morbihan. En cause, contrainte de groupe, vin sur le site, comportement adapté. C'est un milieu fragile que certains consommateurs de sites touristiques ont du mal à comprendre. Certains élus s'y associent et la sentence tombe. Les oiseaux sont de retour, la biodiversité est au mieux et le paludier se voit notifié de s'en aller. Mobilisons-nous pour le paludier de l'année, Saint-Armel, dans le Morbihan 56. Merci.
Madame qui détache son veau, les petites biquettes dans l'herbe, le bois, là, le chariot avec les branchages, les feuilles séchées pour le feu. Un tout petit village comme ça, il fait très très beau, c'est magnifique, c'est idyllique ici, avec le linge entre les pruniers en fleurs. De l'autre côté c'est la frontière, à 100 mètres, 200 mètres, là on voit la ligne de la frontière avec le Kosovo. Et donc la frontière est fermée. De temps en temps, on entend passer des avions de l'OTAN, d'après les gens. Et les familles sont séparées et les réfugiés ne passent plus aujourd'hui. 30 000 réfugiés par jour sont passés par cette frontière. Et on ne sait pas du tout si elle va être à nouveau ouverte.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Pierre Péan et Guy Vanctil. Kosovo, le bénéfice du doute.
Flight number 2. Arriving from New York.
Là-bas si j'y suis, 19 avril 1999.
C'est quand même des scènes qu'on pense pas pouvoir voir dans sa vie. Là, il y a un camion qui est arrêté sur le bord de la route. Et c'est une distribution de pain. Le type en a plus, regarde, le type n'a plus de pain. Et c'est des bras, des mains tendues, des mains qui se tendent pour avoir des morceaux de pain. Le gars jette carrément le pain, le militaire là qui est dans le camion jette carrément les morceaux de pain. Voilà, ce peuple qui se barre avec des morceaux de pain, qui sert à cet homme, ce vieux bonhomme là qui porte trois morceaux de pain contre lui. Les gosses, tout le monde se bat, ça va, ces gens vont se battre pour le pain. C'est un désastre, hein. C'est vraiment un désastre. Est-ce qu'on a vraiment voulu ça? Est-ce que c'était vraiment la seule solution? Est-ce qu'on est sûr que c'était vraiment la même solution? Moi, au point où j'en suis là, moi, je suis contre ces frappes, contre ces bombardements. Je suis évidemment contre Milosevic, avant tout. Et j'espère qu'on se trompe. J'espère qu'on se trompe. Si cette politique de la force fait tomber Milosevic, il faudra reconnaître qu'on s'est trompé et s'en réjouir. Hein? Tant pis, on s'est gouré. Il faudra avoir cette honnêteté-là. Mais je doute fort que ça aboutisse à autre chose qu'un bourbier l'hiver et un guépier l'été. C'est un petit Vietnam.
C'était là-bas, si j'y suis, en 1999, autour du Kosovo. Est-ce que cette scène de distribution de pain était une mise en scène? Nous ne le saurons jamais précisément, mais on peut avoir des doutes. Et c'est de bénéfice du doute dont nous allons parler aujourd'hui avec Pierre Péan, qui publie ce bouquin « Kosovo, une guerre juste pour un État mafieux », mais puis aussi à travers les archives de la base, j'y suis, nos reportages de l'époque d'avril et de mai 1999. Pour les bavures, a dit par la suite un général de l'OTAN, pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces erreurs, mais afin d'anesthésier les opinions, nous disions que nous menions une enquête et nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Alors, est-ce que nous avons été dupes? Est-ce que nous nous sommes fait manipuler? Il faut dire que c'était très très difficile à l'époque d'échapper à ce que j'ai appelé il y a un instant la glu compassionnelle. Des nouvelles et des images terribles nous parvenaient alors du Kosovo. Il était très difficile de rester impassible et de raison garder. On était en 1999, suite au démantèlement tragique de la Yougoslavie dans les années 90, il restait ce conflit entre la Serbie de l'ultranationaliste Milosevic et le Kosovo, province en majorité albanaise, qui réclamait son indépendance et qui subissait apartheid, purification ethnique et répression de Milosevic et des troupes serbes. Tandis que, d'un autre côté, les Serbes du Kosovo subissaient les violences des nationalistes kosovars, de l'Ucheka, l'armée de libération du Kosovo, bras armé indépendantiste kosovar. Alors face à cette situation, il y avait deux voies possibles. La voie politique, c'est-à-dire la recherche de compromis et de concessions, qui semblait tout à fait possible au moment de la conférence de Rambouillet, début 1999. Et puis il y avait l'autre option, l'option militaire, l'intervention armée, et c'est cette option qui a été mise en œuvre 78 jours durant. L'OTAN, l'Alliance, a frappé Belgrade, la Serbie et même le Kosovo. Mais attention, tout ça c'était au nom des droits de l'homme. C'était une guerre humanitaire, c'était une guerre juste qui a bénéficié du soutien quasi unanime de la plupart des médias et nombre d'intellectuels ont apporté leur soutien enthousiaste à cette guerre. Il faut dire qu'il fallait s'opposer à un génocide, il faut dire que chaque jour on voyait ces pauvres Kosovars, ces pauvres gens dans des charrettes tirées par des petits tracteurs et des familles entières avec leurs matelas et leurs polochons. C'était quelque chose qui vous arrachait le cœur et ces images d'exode faisaient écho à des images enfouies dans nos mémoires et qui se réveillaient de façon extrêmement douloureuse. Au bout de 78 jours de bombardement, c'est la CAFOR, la force internationale mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a assuré la suite, Mais depuis 14 ans, qu'est devenu le Kosovo? Quelles ont été les suites de cette guerre juste? Pour nombre d'observateurs, dont Pierre Péan, qui est aujourd'hui notre invité, c'est une véritable catastrophe, c'est une véritable dérive. Le Kosovo est devenu un état mafieux, l'état de tous les crimes, et notamment cette histoire accablante de trafic d'organes. Et par ailleurs, une certaine purification ethnique s'est produite, et nombre de Serbes et nombre de Roms, notamment, ont quitté aujourd'hui le Kosovo.
L'aviation de l'OTAN intensifie ses frappes sur les cibles militaires de toute la Yougoslavie.
TF1, 28 mars 1993.
Nous allons systématiquement et progressivement attaquer, perturber, dégrader, dévaster et en fin de compte détruire les capacités des armées et des forces de sécurité serbes.
Bien évidemment, il y aurait non-assistance à peuple en danger.
Alain Madelin.
Si nous n'usions pas de la force. Et la force est légitime.
Là-bas, si j'y suis, 8 avril 1999.
Mener une action punitive.
Là-bas, si j'y suis, 19 avril 1999.
Sans qu'il y ait des risques, qu'il y ait des.
Là-bas, si j'y suis, l'abbé Pierre, 14 avril 1999.
Accepter le risque qu'il y ait des Français tués.
Là-bas, si j'y suis, 22
avril 1999.
Là-bas, si j'y suis, 22 avril 1999.
Et pourtant, j'ai été confronté à bien des situations affreuses. De toute évidence, il s'agit d'une exécution.
12 avril 1999. Lionel Jospin.
Alors, Bernard Kouchner, cette fois-ci, de nouveau pour le Kosovo, dans votre esprit, il n'y a évidemment pas d'alternative au devoir d'ingérence.
28 mars 1999.
Un jour, on s'apercevra qu'on peut protéger les gens avant les massacres. Il y a des gens qui abritent, qui cachent ou qui causent les souffrances. Cela n'est plus acceptable. Il y a une internationalisation des consciences, de la vision, de l'information, demain de l'intervention et de la protection.
Alors, pro-serbe, c'est un peu comme... pédophile, antisémite, nazi, quoi. Il y a eu un moment où se faire traiter de pro-serbe, c'était équivalent à ces insultes-là. Est-ce que c'est moins violent aujourd'hui? On va peut-être le mesurer avec Pierre Péan. Pierre Péan publie Kosovo, une guerre juste pour un État mafieux. Et alors on va voir comment on est passé de la guerre juste à l'État mafieux. Ça dure quoi, 15 ans de 99 à aujourd'hui, et comment on est passé de l'un à l'autre. Mais je voudrais revenir sur ce qualificatif de pro-serbe, parce que là, on est avec Give en Ktil, et on était en reportage à cette époque-là, autour du Kosovo, on n'est pas entré au Kosovo, on était autour du Kosovo, et on a diffusé un certain nombre de reportages sur France Inter. Dans nos reportages, il y avait des doutes, il y avait des interrogations sur le sens de tout ça. Et il y avait une telle unanimité médiatique et intello-médiatique à l'époque qu'on s'est retrouvé qualifié de pro-serbe. Ça a duré un certain temps. Et on a eu le plaisir de voir que c'était mentionné, cet incident-là figurait dans votre livre. Donc, Pierre Péan, première question, êtes-vous pro-serbe ?
Je ne suis ni pro-serbe ni pro-kosovar. À l'époque, j'avais quand même été surpris justement de cette unanimité médiatique et intellectuelle. J'ai toujours considéré que c'était difficile de cerner, d'approcher la vérité dans l'instant. Et donc, il y a quelques années, j'ai décidé de retravailler sur cette affaire, parce que c'était quand même la première guerre de l'OTAN. L'OTAN qui avait été constituée exclusivement pour lutter contre l'Union soviétique. Il n'y avait donc plus d'ennemis à ce moment-là. Et l'OTAN, après la chute du mur de Berlin, n'avait plus officiellement, par rapport à ses statuts, de justification. Or, cette guerre a été menée par l'OTAN, et c'était une guerre qui était censée faire une rupture avec toutes les autres guerres, puisque c'était une guerre dite morale, pour reprendre la phrase de Tony Blair, ou pour celle de Jospin, ce n'était pas une guerre, mais ce sont des frappes menées au nom du droit. Madeleine Albright avait parlé d'une guerre juste, et Vaclav Havel, enfin lui, s'était totalement enthousiasmé en disant que c'était la première guerre menée au nom des principes. Et donc, cette unanimité, ce nouveau type de guerre, hein, au nom du bien, bon, ça méritait, me semble-t-il, d'être analysé, de reprendre, de remettre tout sur la table, d'étaler tout. Et quand on se replonge, notamment dans les articles qui ont été faits à cette époque-là, on est totalement surpris, parce que émettre un quelconque petit doute, je dis bien petit doute, pas, eh bien, c'était immédiatement, c'était des armes de destruction massive qui étaient faites pour ceux qui prenaient la plume pour douter. On était ou révisionniste, négationniste, voire antisémite, etc. Donc les trucs extraordinaires. Et donc ça, c'est quelque chose de passionnant de voir l'armature de cette première nouvelle guerre. Et d'ailleurs, la guerre elle-même, elle a eu un nom, Force Alliée.
Ouais.
Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'était la mettre dans la droite ligne de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'était donc les Alliés qui venaient au secours de quelques petits pays européens qui étaient sous l'emprise de l'hitlérisme des nazis. Autrement dit, c'est une guerre menée au nom du bien, face au mal. Et d'ailleurs, on s'est pas embarrassé dans la propagande. Milosevic est devenu Hitler. Et ça, c'est ça qui est passionnant, c'est de voir l'armature idéologique pour justifier une telle guerre qui est maintenant livrée donc au nom des valeurs, au nom du bien et contre le mal.
TF1, 28 mars 1999.
Le Premier ministre s'explique sur l'engagement français devant la représentation nationale.
C'est au nom de la liberté et de la justice que nous intervenons militairement.
Lionel Jospin.
Si la force sans le droit, c'est toujours la tyrannie, le droit sans la force, c'est parfois l'impuissance.
Seule voix discordante à l'Assemblée, celle du Parti communiste.
Je considère les frappes de l'OTAN comme un échec de l'Europe,
Robert Hue.
Comme le signe de sa difficulté à affirmer son autonomie envers son allié américain et les visions manichéennes et aventureuses de la Maison-Blanche en matière de sécurité et de relations internationales.
Kosovo, une guerre juste. Qu'est-ce qu'on appelle une guerre juste? Ben, il semble que ce soit toujours à peu près le même scénario depuis 1944. C'est-à-dire qu'il faut, pour faire une bonne guerre juste, il faut qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait un méchant monstre, nazi si possible, il faut qu'il y ait des résistants et il faut qu'il y ait des sauveurs. Et au Kosovo, il y avait ces quatre ingrédients-là, ces quatre éléments-là, qui semblaient vraiment une mise en scène voulue par la com de l'OTAN.
Là-bas, si j'y suis. 8 avril 1999.
Ça va être comme le débarquement en Normandie. Voilà ce que m'a confié en exclusivité un confrère de CNN très proche de l'état-major de l'OTAN. Comme en Normandie. Pour les Spielberg et les Disney de CNN, le scénario est déjà écrit. Milosevic, dans le rôle d'Hitler, avec en plus le fait qu'il fût communiste, dans le rôle du maquis de la résistance, c'est l'UCK, l'armée de libération du Kosovo, la Corse des Balkans, Rugova dans le rôle de Pétain, et puis il y a un génocide, comme dans Spielberg, une Shoah, qui se passe actuellement. Et puis il y a les alliés, il y a absolument tout. Pour le rôle de De Gaulle, On hésite, on cherche, on a pensé à Clinton, on a pensé à Madeleine Albright, mais le casting continue. Ici, on est à Kukesh, au nord-est de l'Albanie, à la frontière avec le Kosovo. La grande kermesse médiatico-humanitaire a installé sa caravane et tout est devenu clair puisqu'il y a urgence. L'urgence, c'est comme la guerre. Quand c'est la guerre, tout devient secondaire. À bas la politique, à bas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à bas la souveraineté des États, à bas le Conseil de sécurité des Nations Unies, face à l'intégrisme nationaliste exacerbé qui a fait 200, 300 000 victimes dans cette bonne vieille Europe, face au crétinisme villageois, la World Company a choisi la guerre. La guerre des étoiles d'abord, la guerre vidéo, et puis, comme en Normandie, on ira sauver le soldat Ryan. Et c'est comme en Normandie, on est plein d'avenir ici, après Belgrade, ce sera Ankara et Istanbul pour défendre les Kurdes, et puis ce sera Pékin pour défendre le Tibet, et enfin la Corée. Nous travaillons pour la libération et pour le monde libre. Tout ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, en Normandie, CNN a débarqué.
Là-bas, si j'y suis, 19 avril 1999.
14e nuit de bombardement sur la Serbie. Ici, on est à Kukesh, toujours à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo. Ça, c'est la police qui passe là. On pense qu'il y a jusqu'à 4000 personnes qui arrivent ici dans cette ville chaque jour, qui essayent de s'organiser, qu'on essaye d'organiser. Et partout, tracteurs, chariots, dans les chariots, des familles avec leurs affaires, quelques petites affaires, en voilà d'autres là qui arrivent, avec les gosses emmitouflés, des gens avec des regards complètement hébétés, épuisés de fatigue, ils ont dû marcher et rouler toute la nuit. Et voilà, jusqu'au pied de la montagne, il y a devant nous une montagne qui se dresse, et jusqu'au pied de cette montagne, c'est une colonne interminable de tracteurs, avec des familles dans les roulottes. C'est l'exode, quoi. C'est les scènes d'exode que nos parents nous racontaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement ça.
Là-bas, si j'y suis, avril 1999.
Là, c'est une immense place devant laquelle je me trouve derrière moi, ça devait être l'immeuble du parti, hein, en jugé par son état de décrépitude. Et puis au bout, les montagnes à n'en plus finir, magnifiques montagnes, sommets enneigés. Et c'est le décor pour les télés, c'est vraiment Hollywood. Là, il y a un gars, par exemple, qui va faire son journal, que j'aperçois là. On a allumé les projecteurs, il y a les micros. Il y a le décor, alors ils ont choisi le décor que je viens de décrire, c'est-à-dire les montagnes éternelles de l'Albanie. Je ne sais pas si on va cadrer sur les réverbères au-dessus qui sont rouillés, pourris, et il doit y avoir une demi-ampoule qui marche encore un peu. Et c'est dans ce décor que vont se succéder les présentateurs, les animateurs. Là, il y a un gars qui est en train de se faire maquiller, il y a la maquilleuse qui est là, ah oui, la maquilleuse a fait le voyage jusque-là. Et tout autour, c'est exactement comme quand j'étais gosse, le cirque Bouglione, ou les grands cirques, le cirque Pinder. Tout autour, il y a les véhicules, camions, camionnettes de la caravane humanitaro-médiatique ou médiatico-humanitaire.
Le constat que je fais, c'est qu'au bout de 3 jours, il n'est pas résolu.
Autrement dit, il aurait fallu adopter la même attitude vis-à-vis de la Bosnie dès 91.
Christine Okrent, TF1, 28 mars 1999.
C'est-à-dire surtout ne pas intervenir, laisser la purification...
Non, mais entre ne pas intervenir et, oui, comme le disent les évêques de France, avoir recours à la guerre.
Marie-Georges Buffet.
Et donc, bien sûr,
qu'est-ce qu'on fait entre les deux à partir du moment où la diplomatie n'aboutit pas ?
Au point où on en est, la guerre n'aboutit pas non plus, madame. La guerre n'aboutit pas non plus. Au bout de 3 jours, la guerre n'aboutit pas non plus. Donc il faut essayer de rechercher des solutions nouvelles.
Mais est-ce qu'il est raisonnable de penser que la guerre puisse aboutir en 3 jours ?
Non, mais la guerre fait des victimes chaque jour, donc je ne pense pas non plus qu'il soit souhaitable que la guerre se poursuive. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que les frappes ont un effet positif. Je n'ai pas l'impression que ça bouge.
Vous, par exemple, vous n'êtes pas hostile par principe au recours à la force.
Serge, Julie.
Non, la question de l'OTAN mise à part.
Vous savez, je pense que, par exemple, quand je vois l'Afghanistan aujourd'hui, je me dis, en effet, quelle solution ? Faut-il pas intervenir ? Il n'y a plus aucune ONG qui peut mettre les pieds en Afghanistan.
Donc l'idée d'une solution de force n'est pas illégitime.
Mais non, ce n'est pas ça le problème.
Pierre Perrin, c'est quand même extraordinaire là-dedans, c'est que, bon, d'accord qu'un certain nombre de politiques, d'observateurs se soient laissés emballer par l'enthousiasme de la guerre juste, mais c'était un front très large, front des guerriers était très large, y compris à gauche, même très à gauche. Finalement, le front du doute, hein, je ne sais pas si on peut dire un point, il était réduit à sa portion congrue. Ouais. Mais effectivement, il y avait bel et bien ce scénario très Deuxième Guerre mondiale, avec un monstre qui était un nouvel Hitler, doublé d'un Staline quand même. On avait là un bâtard absolu, parfait, le monstre idéal. Et de l'autre côté, les forces alliées qui arrivaient, c'était les nouveaux GIs, avec les victimes, qui étaient les malheureux Kosovars, avec ces images d'exode, qui rappelle quelque chose profondément aux Français et à beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de peuples qui ont connu ces exodes, ces déplacements en force, etc. Donc, c'était des images extraordinairement touchantes, frappantes. Donc, c'est extraordinaire de voir comment, dans un pays où les gens sont on a des gens intelligents dans ce pays, des bons observateurs, des bons journalistes, cette erreur collective, hein, l'opération Fer à Cheval, par exemple, le journal Le Monde, qui est un grand journal de référence, un très bon journaliste, Daniel Vernet, qui a presque le même nom que moi, a marché complètement dans cette opération du fer à cheval.
Mais je crois que ce qui est très très intéressant, justement, de voir comment tout le monde plonge, mais tout le monde plonge parce qu'il y a, dès le départ, c'est-à-dire avant même que les bombes tombent, il y a un matraquage. Un matraquage avec des mots qui tétanisent tout le monde. Hein, le mot numéro un, c'est génocide. À partir du moment où il y a menace de génocide, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus d'enquête possible. Parce que enquêter, c'est par définition douter. Alors, douter qu'il y ait un génocide, c'est s'attirer les foudres absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, quand on reprend tous les textes de l'époque, ça commence par donc le terme force alliée, plus jamais Munich. Hein, le terme génocide. Alors, il a fallu, avant la guerre de Kosovo, j'ai été obligé de faire un petit flashback, avant la guerre de Kosovo, il a fallu transformer les Serbes, hein, les transformer en nazis, purement et simplement. Ce qui était quand même une opération, par rapport à l'histoire, qui était quand même assez hallucinante, hein, parce que, à deux reprises, donc, les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, les Serbes ont été du bon côté, quand même, hein. Ils ont été du côté de la France pendant 14-18, et puis, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont été les grands résistants, hein, alors que les Croates, avec Ante Pavelević, ont été les véritables salauds. Et donc, il y a eu toute une campagne médiatique pendant quelques années pour transformer tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait des camps de concentration, qu'il y ait un génocide en préparation. Effectivement, vous avez parlé de l'opération Fer à Cheval, c'est hallucinant quand même. Hein, Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale, qui lance cette opération et qui va s'avérer mais fausse de A à Z. Et comme vous l'avez rappelé, Le Monde a fait sa une. Mais il n'y a pas que ça.
C'est-à-dire qu'il dit que c'est des documents secrets qu'on a eus via les services secrets autrichiens, qu'ils les ont eus par des informateurs bulgares. Et donc, nous avons le plan de l'attaque des Serbes.
Et ce qui est intéressant dans la plaque, c'est le mot plan. C'est le mot programmation, c'est-à-dire que ces salauds de Serbes, ils ont programmé depuis longtemps l'épuration ethnique. Alors, le journaliste, pour la plupart, ces mots-là tétanisent et donc apparemment bloquent les réflexes ordinaires de ce que je crois être un journaliste, c'est-à-dire douter. Voilà, c'est tout.
Selon les autorités militaires allemandes, les Serbes auraient depuis longtemps mis en place une opération fer à cheval, destinée non seulement à neutraliser l'UCK, mais aussi à déplacer et même à éliminer les Albanais. L'exode forcé aurait donc commencé depuis longtemps, bien avant Rambouillet et les frappes de l'OTAN. Les explications de Lucie Sauboul.
TF1,
9 avril 1999.
L'exode forcé des Albanais du Kosovo ne date pas du 24 mars dernier, premier jour de l'offensive aérienne de l'OTAN. Il y a 6 mois, en octobre 1998, les forces serbes entament au Kosovo une vaste opération militaire, progressant méthodiquement à l'intérieur de la province, depuis la frontière serbe. Son nom de code, opération Fer à cheval, ne pouvait pas mieux décrire la prise en tenaille des populations albanaises qui allaient peu à peu être repoussées vers les pays voisins, tandis que l'armée serbe lançait ses offensives contre l'UCK. Ce plan, rendu public hier par les Allemands, présente les 3 phases de l'offensive serbe. Depuis le nord-est de la province et la région de Pristina, en janvier dernier, jusqu'au centre, en février, avant d'attaquer le mois dernier les régions proches de l'Albanie et de la Macédoine. Alors que la délégation serbe était assise à la table des négociations, à Rambouillet puis à Paris, au Kosovo, au plus fort de l'offensive, au moins 300 000 personnes fuyaient leur ville et leur village détruits, chassés par l'armée serbe.
Et ce que nous avons constaté, un mois avant la fin des négociations de Rambouillet et de Paris, c'est que les Serbes étaient en train d'augmenter de manière considérable leurs forces à la fois à l'intérieur du Kosovo et aux frontières du Kosovo.
Selon les Allemands, certains indices laissent à penser que ce plan se préparait dès la fin 98, avec un objectif: renverser par la force la situation démographique du Kosovo.
L'objectif principal de l'opération Fer à cheval est selon nous de battre ou au moins de neutraliser l'UCK au Kosovo.
Alors évidemment, aujourd'hui, 14 ans après, il est facile de distribuer des bons points et d'envoyer les mauvais élèves au coin avec un bonnet d'âne. Mais à l'époque, en 1999, à chaud, qui critiquait quoi ? Qui osait critiquer l'offensive de l'OTAN ? Il avait un peu deux fronts. Il y avait, bien sûr, c'était prévisible, les ultranationalistes inconditionnels de Milosevic et pour qui le fait que les Kosovars fussent musulmans n'était sans doute pas différent. Il y avait aussi, disons, une sorte de centre-droit souverainiste républicain qui osait s'opposer à cette unanimité. Et puis, il y avait aussi, évidemment, la gauche critique et certains intellectuels qui réussissaient à garder raison.
J'ai avec moi aujourd'hui Daniel Ben Saïd. Et vous avez, Daniel Ben Saïd, publié le 9 avril, j'ai la date, un point de vue dans le journal Le Monde, intitulé « Leur logique est la nôtre ». Vous vous situez du côté de ceux qui veulent un arrêt immédiat des bombardements et une autodétermination du Kosovo. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'emblée rangé dans le camp des Munichois et le camp des anti-américanistes primaires ?
Ça fait beaucoup de questions en une. Munichois, je ne crois pas. J'espère que je ne l'aurais pas été à l'époque. Mais non, là, il faut prendre le conflit. D'abord, ce qui bloque un petit peu la réflexion, c'est le recours et le recours excessif aux analogies. On est devant une situation singulière. Réveiller les spectres de Munich, etc., ne crée aucune clarté sur la situation actuelle. Donc, il faut la voir dans sa singularité, parce que un drame, une tragédie comme celle qui est en train de se produire au Kosovo, doit être prise à peu près justement dans une nouvelle époque, un nouveau contexte, une nouvelle situation mondiale. Et un des dangers, malheureusement, sur le dos, au détriment du peuple kosovar, c'est que ce qu'on voit tous les jours à la télé ou ce que vous rapportez dans les reportages, qui est indiscutable, a un effet, ça brûle le regard. Et un regard brûlé devient un regard aveugle. Ou alors tellement saisi par le vif de la situation que tout ce qui est hors champ disparaît et est oublié. Oui. Or, cette guerre a plusieurs dimensions, à l'évidence. La responsabilité, la criminalité même de Milosevic sur les 10 ans ou les 15 ans écoulés ne fait aucun doute. Mais maintenant, je suis prêt à me placer sur un terrain qui n'est pas un terrain de grand principe, de l'anti-américanisme, on pourra y revenir, mais même de l'efficacité. Le paradoxe, c'est que la raison, la seule raison recevable pour laquelle cette guerre a été engagée, c'était de protéger le peuple kosovar et d'empêcher l'application du plan dont on parle maintenant, du plan fer à cheval, etc. Or, bien sûr, ce n'est pas l'engagement militaire qui a provoqué, mais en tout cas qui a amplifié. On a retiré les observateurs vérificateurs de l'OSCE. Mmh. Donc on a maintenant finalement un huis clos sans témoins à l'intérieur du Kosovo. Un exode qui s'est accéléré massivement. Il avait commencé avant, vous le rappelez. Mais là, on parle maintenant de 500 000 dans les 3 semaines écoulées. Donc, le paradoxe tout de même, c'est d'entendre l'argument. Je me place du point de vue de l'efficacité prétendue. Hein. L'argument, il fallait faire pour empêcher. Ça n'a pas empêché. Ça a accéléré. Ça a amplifié. Ça a permis des massacres sans témoins. Et la rumeur autour des massacres, qui sont probablement réels. Donc, et maintenant, on utilise finalement ce résultat comme justification rétro a posteriori de cet engagement. Je persiste à croire qu'il y avait d'autres voies possibles. Moi, je suis extrêmement choqué par la manière dont cette guerre est l'occasion de faire naître et de faire vivre un « nous » dans lequel je ne me reconnais pas. Bon, je l'ai écrit, nous les Occidentaux, non.
La communauté internationale.
Non, c'est ce que j'essayais de dire, non, que on n'est pas dans une bataille d'abstraction ou un théâtre d'ombre où il y aurait d'un côté les souverainetés étatiques et de l'autre côté l'éthique. Vous avez commencé par l'éthique. L'idée de guerre éthique, ça m'a quand même un peu renversé. C'est Tony Blair qui n'en rate pas une, qui a parlé de la première guerre éthique. Mais c'est une connerie sans nom. Enfin, à l'époque où l'éthique se confondait avec la religion, toutes les guerres de religion ont prétendu être des guerres éthiques, évidemment. Bon, mais en revanche, ça donne le ton d'une idée qu'on a le monopole de la morale, du jugement et de l'humanité.
Cela fait un mois qu'ils ont quitté leur village sous le feu de la guerre entre Serbes et indépendantistes albanais du Kosovo.
Journal d'Antenne 2, 30 mars 1999.
Ils se sont ensuite réfugiés à Katsanik, à 15 km d'ici. Mais après les premiers bombardements de l'OTAN, ils ont dû reprendre le chemin de l'exode. Dès leur arrivée dans la zone frontalière, ils sont encadrés par l'armée macédonienne. Ils sont épuisés, mais ils ont sauvé leur peau. Ça fait 5 jours qu'on marche. On s'enfuit à cause de la guerre. On a peur des massacres.
Il y a beaucoup de tués, beaucoup de tirs. Ils massacrent des innocents. Il y a des enfants, des vieillards. Il y a beaucoup de gens qui sont tués.
Depuis l'été dernier, 22 000 réfugiés sont arrivés en Macédoine et l'exode s'est accéléré ces derniers jours. À 30 secondes près, tout le village aurait pu être massacré par la police serbe.
Dans la base, j'y suis, le 12 avril 1999, le monde diplomatique, Ignacio Ramonet.
Ignacio Ramonet.
Oui, la position du monde diplomatique est que nous estimons que cette intervention militaire est une intervention qui n'a fait qu'aggraver les choses, disons. Si nous estimons que M. Milosevic et son régime portent la responsabilité principale de ce qui se passe, et que la répression, notamment au Kosovo, est injustifiable, bien entendu, en revanche, l'intervention de l'OTAN, nous la condamnons pour plusieurs raisons. Première raison, c'est une intervention qui n'a pas de l'égalité internationale. Il n'y a pas de décision du Conseil de sécurité qui est l'autorité suprême en matière, disons, de paix et de guerre sur la planète. D'autre part, cette intervention, on le voit bien, ne sait pas sur quoi elle va déboucher. C'est une intervention qui a voulu régler le problème du Kosovo en croyant que le problème du Kosovo est isolé par rapport à d'autres problèmes qui se posent dans la région. Et il nous semble que la coalition militaire regroupée au sein de l'OTAN n'a pas, disons, de politique de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on veut concrètement et à quoi on va aboutir? Bref, nous pensons qu'il eût été préférable de poursuivre un peu davantage les conversations de Rambouillet. Il n'y a pas, concernant les Balkans, de solution simple. Or, on a proposé une solution simple, c'est-à-dire des bombardements et des frappes militaires pour régler un problème. Là où il faut une sorte d'ingénierie politique, il faut du déminage politique que seuls les politiques peuvent faire et non pas forcément les militaires.
Là, vous êtes minoritaire. On est bien d'accord. Au jour d'aujourd'hui, le 12 avril, le monde diplomatique est dans une sorte de maquis intellectuel et journalistique. Vous êtes minoritaire, vous êtes largement minoritaire. Comment vous expliquez ce... Parlons de la scène française, enfin de la scène médiatique française, ce remue-ménage français et ces fractures qui, ça et là, sont dessinées. Ignacio Ramonet.
C'est une affaire politique, elle n'est pas qu'humanitaire. Comme le reste des téléspectateurs, lorsque nous voyons ces images de réfugiés, nous sommes extrêmement émus. Et nous sommes les premiers à dénoncer le régime dictatorial de Milosevic. Mais c'est une affaire politique, il va largement de là, ce n'est pas qu'un spectacle. Avoir fait de cette guerre, de cette affaire, un spectacle, un show, avec de bons sentiments. On a cité Walt Disney. Et il est évident que cette affaire est trop sérieuse pour être transformée en un film de Walt Disney. Or, c'est comme ça qu'elle est analysée. Donc, à cet égard, il y a une majorité aujourd'hui, disons, de concitoyens en France, qui est pour que la souffrance des réfugiés soit soulagée. Mais c'est évident, et nous partageons ce sentiment. En revanche, je crois que la plupart de nos concitoyens, lorsqu'on veut bien réfléchir, eh bien, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas l'ensemble des éléments leur permettant de comprendre pourquoi on y est allé, qu'est-ce qu'on fait, à qui profite cette guerre et vers quoi nous allons, comment nous en sortir dans cette région. Et ce que nous disons, c'est que dans une région aussi compliquée, on n'y va pas à coups de tomahawk, à coups de missiles pour régler les problèmes.
Là-bas, si j'y suis, 22 avril 1999. Quand reviendront-ils au Kosovo? Combien reviendront au Kosovo? Pourquoi ont-ils fui le Kosovo? Que se passe-t-il à l'intérieur du Kosovo? Comment sera le Kosovo quand ils reviendront, s'ils reviennent un jour au Kosovo? S'ils devaient être vaincus, dispersés, émigrés, alors pleurons de rage et de douleur contre les deux barbaries imbéciles qu'on pourrait appeler Slobo et NATO, Milosevic et l'OTAN. Slobo, le total nationalisme, la purification ethnique, et NATO, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire le virtuel, c'est-à-dire la logique abstraite. Sortir de ce chantage qui essaye de nous coincer depuis plus d'un mois, c'est-à-dire la guerre ou Hitler. Être contre cette guerre, c'est être pour Hitler. Quand c'est la guerre, tout devient secondaire, c'est vrai, mais aussi tout devient primaire. Et nous sommes depuis plus d'un mois coincés dans cette alternative, cette simplification imbécile, ce désastre.
Pierre, il faut, et vous le faites dans le bouquin, reprendre un peu la chronologie, ce qui n'est pas facile du tout, parce que ça nous amène à évoquer l'éclatement de la Yougoslavie au tournant des années 90, la création de la Slovénie, de la Croatie, Bosnie-Sarajevo, la Serbie qui reste assez longtemps, ce qui reste le moignon de la Yougoslavie. Il y a le Monténégro également.
ça c'est une autre histoire, c'est quand même pas simple, hein. Dès qu'on est dans les Balkans, tout devient compliqué.
J'ai pas voulu aller trop loin là-dedans, me limiter au Kosovo, parce que sans ça, on s'y noie. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant cette période, c'est là qu'on a construit le Serbe nazi, hein. Bon, il y avait un problème kosovar. C'est depuis que Milosevic a rompu les anciens accords qui donnaient une large autonomie au Kosovo. Et donc, il y avait un problème de toute façon. Mais ce problème, il était engagé pour être réglé avec un personnage qui avait la grande majorité derrière lui, qui était Rugova. Mais Rugova, qui était quand même favorable à un dialogue avec Belgrade, progressivement a été éliminé sous l'influence des États-Unis et plus particulièrement de Madeleine Albright, parce qu'elle joue un rôle déterminant. On pourrait dire que cette guerre du Kosovo, elle pourrait être appelée la guerre de Madeleine, hein, parce que c'est elle qui a entraîné d'abord son président Clinton dans cette affaire, parce qu'elle est des Balkans. Il se trouve que dans sa vie, elle a été chassée deux fois de son pays, la Tchécoslovaquie. Une première fois, pendant la guerre, elle s'est réfugiée à Belgrade, hein, d'abord. Et en 48, après le coup de Prague, eh bien, elle est partie aux États-Unis. Donc, elle est dans ses tripes. Elle a une vision, et dont la vision essentielle, c'est Munich. Hein. Et avec quelque chose que personne n'a bien compris, c'est cette acharnement contre Hitler, Milosevic. Et donc c'est elle qu'entraîne, parce que dès mars 98, elle veut régler le problème par la guerre, par la force. On voit bien, puisque j'ai réussi à avoir un certain nombre de papiers de chez Chirac, on voit bien que, notamment en France, on est sept, il n'y a pas que la France d'ailleurs, l'Italie aussi a freiné, je ne parle pas de la Russie, etc. Mais, donc on a essayé de freiner Madeleine Albright, mais il y a eu un mouvement extraordinairement fort, et ce mouvement extrêmement fort, ça s'est traduit comment ? C'est-à-dire qu'à la place de Rugova, on a changé. Ce retournement et tout, et ça passe dans l'année 98. Ceux qui étaient pourtant considérés sur la liste des terroristes, les gens de Loucheka, sont devenus en quelques semaines les combattants de la liberté. Alors, il faut revenir à un point très très important qui va faire basculer, parce qu'on est sans arrêt dans la désinformation dans cette histoire-là, pour arriver à la guerre, c'est le fameux massacre de Račak.
À nouveau, des tirs de mortier. Depuis ce matin, les forces serbes ont repris leurs opérations dans le village de Račak, au sud du Kosovo.
France 3, 18 janvier 1999.
Opération menée dans un village quasi désert après le massacre de vendredi dernier. 45 villageois assassinés, dont 3 femmes et un enfant. Les corps d'une quarantaine de victimes reposent toujours dans la petite mosquée de Račak, mais la plupart des habitants ont fui leur village par crainte de nouvelles attaques. Depuis la découverte de cette tuerie, samedi, l'indignation est générale dans le monde, mais il semble bien qu'une fois de plus, les responsables vont bénéficier de l'impunité. Réunis hier soir en urgence, l'OTAN a condamné le massacre, mais sans décider d'intervenir militairement. L'Alliance Atlantique s'est contentée d'envoyer ses 2 plus hauts responsables à Belgrade pour demander des comptes au président Milosevic. De son côté, le tribunal pénal international de la Haye s'est saisi de l'affaire et son procureur, Louise Arbour, est d'ores et déjà parti pour mener son enquête au Kosovo. Pendant ce temps, sur place, les observateurs internationaux continuent d'assister impuissants au déploiement des forces serbes.
Merci à toutes et à tous. Demain, la suite, Kosovo, le bénéfice du doute, retrouvera Pierre Péan. Je rappelle le titre de son bouquin, Kosovo, une guerre juste pour un État mafieux. on s'intéressera plus précisément justement à cette dérive, à ce Kosovo devenu un État mafieux, pas seulement d'ailleurs selon Pierre Péan. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis, ou sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Honnêtement, il y a 3 mois, je savais même pas qu'il fallait une assurance pour les apparts. Alors, choisir un contrat, là. Et puis, j'ai entendu parler du site Maïf First. Et en même pas une heure, j'étais assuré.
À la Maïf, la force du collectif, c'est donner accès à une assurance de qualité aux jeunes qui démarrent dans la vie. Pour les moins de 30 ans qui souscrivent leurs premières assurances, nous avons créé l'offre Maïf First. Une sélection de nos contrats auto, logement et santé, ainsi que des réductions allant jusqu'à 80 euros. Appelez le 3240 et dites Maïf, prix d'un appel local. Maïf. Assureur militant. Conditions de l'offre sur maif-first.fr.
France Inter, partenaire du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Du 18 au 21 juillet, vivez 4 jours de fête et de musique en plein cœur de la Bretagne avec plus de 70 concerts, 5 scènes. Neil Young, Elton John, Rammstein, Phoenix, Asaf Avidan, Al Jay, M. Mais aussi Roquette Traoré, Oxmo Puccino, Lou Doyon, Mesparo, Marie-Pierre Arthur, Brains et bien d'autres. Renseignements sur franceinter.fr.
Les 8 et 9 juin au 104.
Les week-ends de Radio France proposent de vivre 1913.
Un sacré printemps.
Dernier week-end de musique de chambre de Radio France de la saison.
L'occasion de célébrer le centenaire de la création du Sacre du Printemps en brossant le panorama d'une année charnière au bouillonnement artistique sans précédent.
Informations au 01 56 45 16
sur concert.radiofrance.fr
et sur 104.fr.
On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les informations, Laetitia Gaillet.
Valérie Noël se dit sereine pour le traitement de l'affaire Bettencourt. La juge d'instruction parle de déstabilisation. Aujourd'hui, elle ne craint pas une annulation après les révélations du Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien affirme que l'enquête est fragilisée par la trop grande proximité entre le juge Gentil et un médecin qui a participé à l'expertise décisive sur l'état de santé de Liliane Bettencourt. Il faut donc maintenant attendre les réquisitions du parquet d'ici le mois de juin et ensuite avec les juges Gentil et Ramonazzo. Valérie Noël devra dire d'ici l'été qui il pense ou non renvoyer devant un tribunal correctionnel. 12 personnes, dont Nicolas Sarkozy, ont été mises en examen dans cette affaire pour notamment abus de faiblesse. Un nouveau record en matière de chômage est attendu ce soir selon le site internet des Échos. Les chiffres que Pôle emploi s'apprête à publier à 18h ne seront pas bons. On devrait avoir 40 000 nouveaux inscrits pour le mois d'avril. Le ministère du Travail n'a pas voulu confirmer, mais Jean-Marc Ayrault a prévenu en fin de matinée. Nous sortons d'une période de 2 trimestres d'une récession qui touche la France et touche la zone euro. Toutes dans ces conditions, le marché du travail ne peut repartir. La France isolée sur la suspension de la pilule Diane 35, selon l'Agence européenne du médicament, la CMDH. L'organisation de l'Union qui regroupe les agences en fait nationales du médicament la suit dans ses préconisations. Elle estime aujourd'hui que les bénéfices de ce traitement anti-acné est plus bénéfique justement que risqué, à une condition que la Diane 35 ne soit utilisée que comme traitement contre l'acné et non pas comme contraceptif. La première salle de consommation de drogue sera installée dans une enclave de la SNCF, près de la gare du Nord à Paris, mais à l'écart des habitations. Le maire PS du 10e arrondissement de Paris a expliqué aujourd'hui qu'elle se présentera sous la forme de préfabriqué. Elle fera environ 200 mètres carrés et elle sera située donc au 39 boulevard de la Chapelle. Il faut maintenant obtenir, dit-il, le permis de construire et aménager le terrain ainsi que l'accès. À Roland-Garros, on a débâché les terrains, il ne pleut plus, le jeu a donc repris. Julien Lenglet, vous confirmez, après la défaite de Mladenovic face à Stosur, Djokovic entre en scène sur le court Philippe Châtrier et sur le Lenglen, Lucas Pouille, lui, termine son match face à Dimitrov.
Oui, ça vient de reprendre, hein, Laetitia. Ça n'a même pas encore repris ici sur le court central, puisqu'en fait, le match, il n'y avait aucun match en cours avant l'interruption de la due à la pluie. Donc le match a eu lieu entre Mladenovic et Stosur ici sur le court central. Et c'est l'Australienne qui s'est facilement imposée 6-4, 6-3. Roland Garros est terminé pour la jeune Française âgée de 20 ans, Kristina Mladenovic. Et c'est en passe de se terminer pour Lucas Pouille, puisque son match a lui repris sur le court pour Suzanne Lenglen. Il est opposé au Bulgare Dimitrov. Il a perdu le premier 7-6-1, le deuxième 7-6. Il est mené 5-1 dans la troisième manche, 30-0 pour le Bulgare sur son service. Autrement dit, Roland Garros, c'est également bientôt fini pour le nordiste de 19 ans. Et vous l'avez dit, Laetitia, ici sur le court central, c'est Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui court toujours après une victoire ici à Roland Garros, âgé de 26 ans, le Serbe, tête de série numéro 1, qui est opposé pour son deuxième match dans le tournoi à l'Argentin Guido Pella, dont c'est la première participation à Roland Garros. Il est 83e mondial et il est âgé de 23 ans. Sont attendus encore côté français sur les cours, si le temps le permet et si la nuit ne tombe pas d'ici là, Richard Gasquet, Benoît Paire, Marion Bartoli et encore Alizé Cornet. Tous essaieront d'aller chercher un ticket pour le troisième tour.
Julien Lenglet en direct de Roland Garros pour l'instant sur France Inter. Il est 16h03.
Demain, à partir de 21h,
Alice 2013.
En direct et en public de la Fondation Cartier,
oui,
pour l'art contemporain.
Alice, celle du Pays des Merveilles.
Une soirée exceptionnelle, présentée par Stéphane Paoli.
Alice 2013 est une autre lecture du conte de Lewis Carroll au moment où notre monde connaît un extraordinaire changement d'échelle.
Alice 2013.
De l'infiniment grand à l'infiniment petit.
En direct et en public de la Fondation Cartier, pour l'art contemporain.
C'est avec des scientifiques et des artistes que nous partirons explorer le terrain de jeu d'Alice, devenu le nôtre.
Une soirée unique à suivre sur France Inter demain à partir de 21h. Toutes les infos sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour chère Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Deux sujets aujourd'hui. Le festival de Saint-Denis qui a commencé hier. Classique, métis, création, c'est jusqu'au 28 juin. Et on a des échos. On a l'enfance du Christ qui a été donnée justement hier à la magnifique basilique cathédrale de Saint-Denis. Ça devait être Colin Davis à la baguette, mais il est décédé, vous le savez peut-être, certainement. Et il y avait le chœur de Radio France, l'orchestre national de France, Stéphanie Doustrac qui chantait Marie. Et puis ce soir, c'est la même chose, les mêmes évidemment, les mêmes interprètes, Stéphane Degout, Joseph, François Lys, Hérode, Jeremy Ovenden, un récitant et un centurion romain, et puis un père de famille, Nahuel Di Piero. Et ben voilà un peu de cette œuvre étrange, une œuvre écrite à la manière des vieux missels enluminés, disait Berlioz. En fait, il a repris quelques pièces qu'on avait déjà entendues, l'adieu des bergers à la Sainte Famille, par exemple, et puis il a composé ça petit à petit, autour des années 1850, une œuvre au départ très très légère, avec une orchestration presque intime, et puis après ça a grandi, ça c'est la nature de Berlioz évidemment, de renforcer, d'élargir bien sûr. Alors voici l'ère d'Hérode, on connaît un peu l'histoire, Marie, Joseph, le petit Jésus, et puis Hérode qui sait que son pouvoir va être menacé, on lui dit d'ailleurs assez, et il fait un songe, et ce roi qui va devenir cruel décide, après avoir écouté quelques oracles, de tuer tous les garçons premiers-nés, parce qu'on lui a dit, et il chante d'ailleurs toujours ce rêve, encore cet enfant qui doit me détrôner, et après il se plaint de son métier de roi, ô misère des rois, régner et ne pas vivre, à tous donner des lois et désirer de suivre le chevrier au fond des bois, ah oui, tout abandonné, ô nuit profonde qui tient le monde dans le repos plongé, à mon sein ravagé, donne la paix une heure, et que ton voile effleure mon front d'ennui chargé.
Pas vivre.
Un extrait de L'enfance du Christ d'Hector Berlioz, air d'Hérode, François Lys, toujours ce rêve, encore cet enfant qui doit me détrôner. Donc, direction de l'Orchestre National de France par James Conlon, quelques petits bruits parasites, vous l'avez entendu. Et si vous écoutez l'émission cette nuit, on pourra dire que ce sera vraiment ce soir à la Basilique Cathédrale, mais si vous l'écoutez aujourd'hui, ce jour-là, eh bien, c'est le vendredi 31 mai, c'est pas ce soir, c'est ce soir dans le cadre de l'entente de l'écoute la nuit, et puis c'est de toute façon demain 31 mai à la Basilique Cathédrale de Saint-Denis, voilà.